Nos questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Alzheimer la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Si vous avez une question ou encore un témoignage à nous faire parvenir, n'hésitez pas à le laisser sur la page de la radio ou sur la page Facebook de l'association. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, nous allons parler d'un ressenti que l'on a auprès de notre proche qui est malade, ce moment où vous qui êtes aidant devez malheureusement envisager une nouvelle vie aux côtés de votre proche dont la personnalité est malheureusement altérée par la maladie. Ce sujet est sensible et pas forcément facile. Et pour en parler avec nous, nous sommes avec la psychologue de l'association, Judith Mollard-Palacios. Bonjour Judith.
Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous.
Alors pour commencer, on va parler de ce paradoxe un petit peu compliqué. Le proche malade est toujours là, physiquement, mais mentalement, moralement, ce n'est plus la même personne. Et on comprend que c'est une situation difficile, Judith, mais pour autant qu'il ne faut pas ignorer.
Oui, tout à fait. C'est vraiment la particularité de cette maladie neuro-cognitive qui touche donc la cognition, la capacité à communiquer, la capacité à se raconter, la capacité à se souvenir. Et toutes ces capacités sont bien sûr au premier plan des enjeux de la relation que l'on peut avoir avec soi-même, mais aussi avec son entourage et notamment avec ses plus proches. Donc voilà, même si les personnes malades en début de maladie disent qu'elles se sentent toujours les mêmes, qu'elles n'ont pas le sentiment d'être différentes, cependant les conséquences de ces troubles cognitifs, bien entendu, vont malheureusement influer sur la qualité de la présence aux autres, la qualité de la communication et de la relation aux autres. Et c'est évidemment douloureux pour l'entourage de voir que son proche n'est plus tout à fait comme avant, n'est plus en mesure de partager un certain nombre de choses, d'épisodes de vie, de participation aux événements familiaux comme il pouvait le faire avant. On peut même parfois noter, et c'est difficile pour la famille, mais peut-être une indifférence à ce qui se passe au sein de la famille, le sentiment en tout cas que la personne peut s'éloigner de ce qui faisait la vie du groupe familial. Donc c'est évidemment une épreuve pour l'entourage et en même temps, comme vous l'avez dit, la personne, elle, est toujours là avec des envies, avec ses expressions, même si elles sont modifiées. Et donc, c'est l'enjeu de transformer finalement notre relation, de revoir la nature de notre lien à la personne. Et c'est évidemment quelque chose de complexe et d'éprouvant pour les aidants familiaux.
Alors cette situation qui peut être difficile, qui peut être compliquée pour les aidants, comment la gérer concrètement et puis quelles aides leur apporter ?
Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que souvent, il y a d'abord tout un temps, finalement, de colère de la part des familles. Une colère de voir que le proche ne répond plus comme il pouvait le faire, n'occupe plus la place qu'il occupait, que ce soit celle de conjoint, celle de père ou de mère, ou de grand-père ou de grand-mère. Et souvent, les aidants peuvent dire, je sais bien qu'il ne le fait pas exprès, mais je lui en veux de ne plus être comme il était, de ne plus prendre sa place comme il l'avait. Donc, il y a souvent une étape comme ça de colère, de déception, de ressentiment, de tristesse, bien évidemment. Et c'est comme s'il fallait tout un temps d'acceptation, finalement, d'accepter, de renoncer à la personne telle qu'elle était pour pouvoir à un moment donné accéder peut-être et découvrir celle qu'elle est devenue. Hein. Donc ça, c'est un parcours hein, psychique qu'il va pouvoir falloir accompagner, c'est-à-dire permettre aux aidants sans culpabilité d'exprimer leurs sentiments ambivalents, hein, c'est-à-dire de, en même temps de compassion, hein, de sollicitude, mais en même temps de ressentiment, de colère. Pourquoi il me fait ça à moi, hein, donc aider les aidants à exprimer ces sentiments contradictoires et ne pas en avoir honte parce qu'ils sont tout à fait normaux, enfin, et que c'est en les exprimant qu'on va peut-être pouvoir accéder à une seconde phase où là, on sera peut-être plus serein et où on inventera hein, quelque chose de nouveau, même si c'est quand même quelque chose qui eh bien, nous oblige hein, à nous adapter, à renoncer à ce qui existait.
Alors ce fameux ressenti de la situation, est-ce que c'est du cas par cas? Est-ce que tout le monde est concerné? Ou au contraire, est-ce que certains aidants justement ne ressentent pas ces choses-là face à leurs proches malades?
Oui, alors bien sûr que toutes les situations sont singulières, particulières, au regard notamment de la relation qu'avait l'aidant avec son proche malade. Peut-être aussi que c'est pas tout à fait la même chose quand il s'agit du conjoint que d'un enfant. Un enfant, lui, s'est construit sur le modèle de son parent, notamment quand il s'agit du parent du même sexe. Et quand ce parent n'est plus ce qu'il était, hein, cela peut entraîner chez l'enfant un déséquilibre, hein, comme si ses fondations s'ébranlaient. Et en fonction des ressources hein, personnelles de chaque enfant, ce phénomène-là va avoir un retentissement plus ou moins important. En ce qui concerne les conjoints, tout dépend aussi du lien d'attachement et de la relation d'interdépendance qui préexistait à la maladie. Quand le conjoint était dans une grande relation de dépendance hein, au conjoint malade, évidemment, ces changements, ces modifications vont être vécues beaucoup plus difficilement et parfois même impossibles hein, à dépasser. Et ça va être vécu avec beaucoup de souffrance, beaucoup de privation, beaucoup de retentissement sur son propre équilibre psychologique. Et puis, dans d'autres situations, si les relations, même si elles étaient proches, hein, étaient plus autonomisées, en tout cas plus individualisées, eh bien ça va être certainement plus aisé hein, de s'adapter aux modifications hein, de la personne du fait de sa maladie et s'adapter à une relation peut-être moins riche, moins nourrie, mais qui pour autant peut continuer d'exister et va plutôt s'appuyer non pas tant sur la communication verbale, mais que sur la communication non verbale, et s'appuyer aussi sur un ici et maintenant, hein, sans forcément faire référence à l'histoire passée. Donc tout ça va être très dépendant d'un individu à l'autre au regard de son histoire personnelle, de ses ressources personnelles et de sa relation avec la personne malade.
Et l'important, c'est qu'il n'y ait aucune culpabilité, quel que soit le cas dans lequel on est.
Tout à fait. Hein, je crois que voilà, il faut prendre en compte la façon dont on vit les choses, hein, avec nos émotions, avec notre histoire, et surtout pouvoir avoir des espaces. Je crois que c'est ça qui est important, des espaces d'expression, des espaces de mise en commun à travers les actions proposées par France Alzheimer, hein, les groupes de parole, la formation des aidants, les entretiens individuels, et de voir que d'autres peuvent éprouver des choses semblables ou pas, mais en tout cas hein, que personne n'est épargné par cette épreuve hein, de devoir revisiter la relation à l'autre.
Et puis enfin, dernière question, Judith. Certains psychologues, au sujet de ce ressenti, parlent de deuil blanc. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce terme ?
Alors, je ne suis pas très à l'aise avec ce terme, hein, puisque bon, si on parle de deuil blanc, comme on parlerait de mariage blanc, on sous-entendrait qu'il y aurait un deuil pour de faux, finalement. C'est-à-dire qu'on ferait le deuil de quelqu'un, mais pour de faux, puisque ce quelqu'un est toujours vivant. Ce quelqu'un hein, est toujours auprès de nous et présent. Et je trouve, du coup, hein, l'utilisation du terme deuil un peu excessif, et peut-être qu'il ne permet pas, finalement, de laisser existence hein, à l'autre, malgré ses pertes, malgré ses handicaps, et que Oui, ce serait condamner finalement un peu vite hein, la personne à une non-existence, hein, à quelque chose où il n'existerait plus. Je sais que pour certains aidants, ce terme de deuil blanc résonne parce que ça vient soulager quelque chose de leur culpabilité hein, dans ce qu'ils éprouvent vis-à-vis de la personne. C'est-à-dire qu'en effet, dans ces processus-là, il y a aussi un processus de détachement. Hein. Affectivement, on est peut-être plus aussi liés qu'on l'était. Hein, c'est évoqué dans le cadre des couples, hein, c'est-à-dire que l'époux ou l'épouse hein, peut dire qu'il n'éprouve plus tout à fait les mêmes sentiments d'amour qu'il pouvait avoir. Hein, ces sentiments vont évoluer. Pareil en ce qui concerne les enfants, c'est-à-dire que y a, de toute façon, on n'a pas le choix aussi de se détacher en prévision du départ définitif de la personne. Voilà, donc tout ça est évidemment très, très éprouvant et surtout doit pouvoir être parlé, doit pouvoir être soutenu.
Eh bien, merci beaucoup Judith Mollard-Palacios de nous avoir accompagnés une nouvelle fois tout au long de cette émission et puis de nous avoir apporté toutes ces réponses.
Merci.
Merci aussi à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je le répète, hein, vous pouvez réagir ou poser vos questions sur l'espace commentaire de la radio ou la page Facebook de l'association. Et puis, vous pouvez aussi réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Vos questions, nos réponses.